BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business. De quoi est-ce qu'on parle ce soir dans l'actualité économique? De cette surtaxe qui va venir frapper la facture électricité au pont. On se demande dans quelle mesure cette facture va vraiment baisser pour les particuliers. On va voir ça bien sûr dans un instant. Les vieilles ficelles que l'on ressort pour faire rentrer de l'argent, le débat sur les effectifs de la fonction publique et celui des 35 heures. Ça aussi, on va en reparler avec nos experts jusqu'à 20h. Qui sont-ils, nos experts ce soir? Les économistes Nathalie Janson et Henri Sterdignac, Sixtine Moulet-Berthaud, cofondatrice du Crayon, et Nicolas Marquez pour le think tank Molinari. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Good evening business, le journal.
Donc oui, ces informations de presse qui ne demandent qu'à être confirmées, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Info selon lequel le gouvernement devait appliquer une nouvelle surtaxe sur l'électricité. Bonsoir Mathieu Pechberti. Tout ça alors que le gouvernement nous disait il y a 2 mois à peine qu'il y aurait une baisse de l'ordre de 10% à peu près pour les Français. C'est ça Mathieu?
Oui, exactement. On parle maintenant, on en est sûr, d'une surtaxe d'impôt sur les sociétés et revoilà une autre surtaxe, cette fois sur les prix de l'électricité. Alors en fait, les gouvernements étudient la possibilité effectivement d'appliquer une taxe dite exceptionnelle sur la facture d'électricité. Je m'explique parce qu'on part un petit peu de loin. La facture d'électricité, il y a évidemment une taxe dessus qui représente environ un tiers de son total. Et cette taxe avait été totalement annulée pendant la crise énergétique puisque les prix avaient flambé. Le gouvernement avait fait un effort fiscal important pour soutenir ce qu'on a appelé à l'époque le bouclier tarifaire. Sauf que depuis, les prix ont beaucoup baissé. Le gouvernement a décidé de relever en 2 temps cette taxe à son niveau d'avant-crise, ce qui va être fait en 2025. Et comme les prix de l'électricité ont beaucoup baissé sur les marchés, en contrepartie, le consommateur devait bénéficier effectivement d'une baisse des prix de 10 à 15%. C'est ce que l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait annoncé au mois de juillet. Et donc là, le gouvernement qui vient d'arriver aux manettes, qui cherche évidemment plusieurs milliards d'euros pour boucler son budget, se dit que plutôt que d'avoir une baisse pour les consommateurs de 10 à 15%, on pourrait se contenter d'un petit peu moins et donc récupérer encore quelques milliards d'euros et donc appliquer une surtaxe sur la facture d'électricité. On n'a pas de chiffre pour le moment, mais on parle de quelques milliards d'euros.
Mais dis donc, l'impression qu'on cherche beaucoup d'argent autour de l'énergie. Il y a une semaine ou deux, on parlait encore de la surtaxe sur EDF. Là, c'est un petit peu la chasse dans le secteur. Là.
Alors, la surtaxe, effectivement, là, on va avoir un retour de la taxation normale sur la facture d'électricité. On parle de 4, 5, 6 milliards d'euros. Ensuite, il va sûrement y avoir donc cette nouvelle taxe dont je viens de parler, encore quelques milliards d'euros. Et puis, effectivement, il avait une taxe sur les outils de production d'EDF, c'est-à-dire les centrales nucléaires en gros, qui a été a priori enterrée par le gouvernement, mais en contrepartie, EDF a consenti ou va consentir à verser ce qu'on appelle un dividende exceptionnel à l'État. Là encore, on n'a pas de chiffre, mais comme le gouvernement cherchait 3 milliards sur cette poche, on devrait, entre le dividende, le retour normal de la taxe et la surtaxe, à la louche, on devrait quand même arriver à environ 10 milliards d'euros sur le secteur énergétique et notamment, essentiellement, pour l'entreprise publique, l'ancien monopole EDF.
Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business, 19h05 dans l'actualité ce soir. La première rencontre aujourd'hui à Luxembourg, Antoine Armand et ses homologues européens. Il y est allé, il a tenu un discours similaire à celui tenu par Michel Barnier ces derniers jours. C'est un peu du copier-coller, écoutez.
J'aurai l'occasion de présenter une trajectoire de redressement des finances publiques, d'abord pour la France, parce que c'est nécessaire pour notre pays, et bien sûr pour respecter pleinement les engagements européens que la France a pris, et je le dis ici, que la France tiendra. Cette trajectoire, je l'ai dit, elle aura à la fois pour but de redresser nos finances publiques et de soutenir la croissance et l'investissement à la fois en France et en Europe, puisque c'est une question de renforcement à la fois de notre pays et du continent européen.
Voilà Antoine Armand à son arrivée à Luxembourg. Écoutez un petit peu plus tard la réaction sur place du commissaire européen aux affaires économiques, l'italien Paolo Gentiloni. Il parle de quoi? de premières discussions prometteuses.
Nous sommes déjà en train de discuter au niveau technique avec les autorités françaises, avec le nouveau gouvernement, de leur budget et du plan fiscal à mi-mandat. Les discussions ont commencé la semaine dernière. J'ai aussi eu des conversations avec le nouveau ministre de l'économie et je considère ces conversations prometteuses.
Paolo Gentiloni, donc commissaire européen aux affaires économiques aujourd'hui. À Luxembourg, en France, dans l'actualité des entreprises, on va continuer entre Atos et l'État à discuter. Vous savez qu'il était question, il y a quelques mois, que l'État rachète les activités dites stratégiques du groupe. L'offre a expiré ce matin, a dit Atos, qui dit vouloir continuer à discuter avec l'État. Le gouvernement a très vite répondu qu'il proposerait un nouveau schéma d'acquisition prochainement. Ce sont les mots employés par Bercy aujourd'hui. Et puis alors, si ça se confirme, ça serait un choc, mais d'après l'agence Reuters, le pétrolier BP pourrait bientôt annoncer qu'il renonce à tous les objectifs qu'il s'était fixés d'ici 2030 pour réduire sa consommation de gaz et de pétrole. Les concurrents, cela dit, sont un petit peu dans le même état d'esprit. Raphaël Couder.
Rien n'est aujourd'hui plus rentable que le pétrole, estime BP. Le groupe avait pourtant dévoilé en 2020 l'une des plus ambitieuses feuilles de route du secteur, réduire de 40% sa production d'hydrocarbures d'ici à la fin de la décennie, tout en développant massivement les énergies renouvelables. Mais la crise énergétique est passée par là, les conditions de financement et l'augmentation du coût des matières premières ont grévé la rentabilité des investissements dans la transition. BP a donc adouci cet objectif à 25% l'an dernier et il est finalement en train de l'abandonner complètement. Son nouveau patron, en place depuis janvier, cherche à rassurer les investisseurs alors que le cours de BP a baissé de 20% en un an. Le Britannique est actuellement en négociation pour investir dans plusieurs nouveaux projets pétroliers en Irak et au Koweït. BP n'est d'ailleurs pas du tout un cas isolé. En début d'année, Shell a lui aussi revu à la baisse sa stratégie dans les énergies renouvelables. La semaine dernière, Total Energy a également dit qu'il entendait augmenter sa production de pétrole et de gaz de 3% jusqu'en 2030.
Raphaël Couder avec nous sur BFM Business, 19h08. On retourne sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On s'en sort bien apparemment à la Bourse de Paris aujourd'hui.
Mais oui, on s'en sort même très bien. Plus 0,46% pour le CAC 40, 7576 points alors que le reste de l'Europe boursière était en hausse, mais plus 0,3% pour l'Eurostock 50. On a même Francfort qui a terminé sur une baisse, moins 0,09%. Alors pourquoi ? Parce qu'on a le secteur du luxe qui nous a sauvés. Encore une fois, Kering plus 4,57 à 247,35 €. On a LVMH plus 2,70, 269,80 €. Alors deux choses à cela. Premièrement, demain, la Chine doit annoncer de nouvelles mesures, un nouveau stimulus package pour l'économie chinoise. Et puis, deuxièmement, il y a aussi un petit aspect spéculatif. On sait que Richemont veut mettre en vente un important portail Internet. Et toute nouvelle de regroupement dans le secteur du luxe peut stimuler un petit peu l'ensemble du secteur. Bonne performance des banques aussi, qui sont bien redressées aujourd'hui. BNP Paribas, notamment, qui a gagné 1,5% à 61,81 €. Il faut dire que ça s'est un petit peu tendu sur le marché obligataire, sur les taux. Donc ça a un peu stimulé le secteur bancaire. En revanche, les technos, elles, étaient en net repli. Capgemini, plus forte baisse du CAC, moins 2,7%, 183,35 €. L'Euronext Tech Leaders termine d'ailleurs en baisse de 0,46%, hein, ce que le CAC 40 a gagné. Et puis le chiffre du jour, c'est les $80 sur le pétrole. Ça y est, on a dépassé le cap. $80,74 pour le Brent, on est au plus haut officiellement depuis le 26 août dernier.
Merci beaucoup Antoine, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance bien sûr. Le Dow Jones qui perd 0,58%, 42106 points. L'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,5%, 18048 points. Tout ça bien sûr à la mi-séance. 19h10, la campagne américaine.
USA 2024, la présidentielle.
Mais oui, parce que désormais, jusqu'à l'élection présidentielle du 5 novembre, on vous proposera tous les soirs un éclairage sur cette campagne américaine qui s'accélère. Ce sera avec Benaouda Abdedaïm. Bonsoir Benaouda, bienvenue. Bonsoir. Première chronique ce soir pour mettre en exergue, alors que ce soit avec Kamala Harris ou Donald Trump, l'immense inconnu du gonflement des déficits et de la dette publique aux États-Unis. Le Comité pour un budget fédéral responsable, qui est une organisation privée non partisane, sort des projections absolument alarmante.
Oui, si c'est la démocrate qui l'emporte, la dette américaine va gonfler beaucoup. Et si c'est le républicain, elle augmenterait de plus du double, donc pire. Le CRFB décortique sans parti pris à Washington les dossiers budgétaires, les dossiers fiscaux. Et ces calculs sont vraiment sans appel. Le programme de la vice-présidente Kamala Harris en rajoutait pour 3 500 milliards de dollars de dettes entre 2026 et 2035. Et si vous prenez l'application du programme de l'ex-président Donald Trump, l'ardoise serait alourdie de 7 500 milliards de dollars par-dessus, il faut le rappeler, les 28 000 milliards actuels. Donc, rapporté au produit intérieur brut américain, ça ferait une dette fédérale qui passerait de 100 à 133% avec la démocrate, ou bien de 100 à 142% avec le républicain, dans un scénario, disons, central. D'un côté, il y a le financement public de la garde d'enfants, les subventions au logement, également l'élargissement des crédits d'impôt pour les PME. En face, donc dans le camp Trump, il y a la volonté d'accorder, encore une fois, une nouvelle salve de baisse d'impôts pour les ménages et pour les entreprises. Et le CRFP relève aussi que l'un comme l'autre ne compte pas mettre en terme aux allègements de taxes qui, rappelons-le, ont été décidés sous l'administration Trump en 2017 et qui sont censés expirer fin 2025. Et c'est cela qui pèsera le plus lourd, en fait, dans cet endettement extraordinaire. Et d'après ce document, les prévisions de nouvelles recettes mises en avant de part et d'autre ne feraient qu'atténuer le dérapage, que ce soit le relèvement de l'impôt sur les sociétés et les revenus de Kamala Harris ou bien le surcroît de droits de douane de Donald Trump.
Ce qui veut dire que la campagne Trump ne redoute plus donc d'aller en la matière contre l'électorat républicain traditionnel. Finalement.
Oui, absolument pas. Alors, ce comité pour le budget fédéral responsable redoute que les États-Unis aillent de ce fait vers une crise budgétaire dans une configuration où le remboursement coûterait beaucoup plus cher qu'avant. Mais dans l'approche de cette élection du 5 novembre, cela continue de glisser sur la campagne Trump comme si de rien n'était. Les tenants au Parti républicain de ce conservatisme dans la gestion des comptes fédéraux ont en fait été évincés du cœur du pouvoir du parti. On voit certains démocrates tenter, tant bien que mal, de reprendre ce rôle de la sagesse budgétaire, sans vraiment plus de succès. Un ancien conseiller du président démocrate Bill Clinton pense en fait que les candidats, les deux, sont déterminés à ignorer ce problème. En partant des projections du Bureau parlementaire du budget, il faudrait en fait couper le stock de dette de 9 000 milliards de dollars pour que le paiement des intérêts et le refinancement de cette dette ne dépassent pas le rythme de la croissance économique escomptée, c'est-à-dire autour de 2%. De part et d'autre, cela reste tout à fait inconcevable et advienne que pourra.
Et voilà donc pour l'éclairage ce soir, l'inconnu du gonflement des déficits et des dettes publiques, Benaouda Adedaïm, qui sera donc tous les soirs avec nous à 19h10 pour un éclairage sur cette campagne. On est à un mois, c'est le 5 novembre prochain. Merci beaucoup Benaouda. 19h13, nos experts arrivent dans un instant. On parle de la France qui, elle aussi, cherche des milliards, quitte à ressortir les vieilles ficelles sur les effectifs de la fonction publique ou encore les 35 heures. On parle de ça. Plus de bien d'autres choses d'ici 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h17, ils sont là comme tous les soirs, nos experts du soir, pour refaire l'actu. Nathalie Janson est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir,
bienvenue.
Guillaume.
Bienvenue. Sixtine Moulet-Berthaud est avec nous. Bonsoir, Sixtine.
Bonsoir,
bienvenue.
Guillaume.
C'est votre première cofondatrice du média en ligne Le Crayon, lancé en 2020. Alors, j'ai vu le pitch, c'est le média de débat d'idées qui ose la contradiction pour mieux réunir. Bah, écoutez, exactement, vous prêchez des convertis, on est en plein dedans ici. Soyez la bienvenue. Henri Stardignac est avec nous. Henri, bonsoir.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Nicolas Marquez, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Directeur général de l'Institut économique Molinari. Alors, je n'aurais qu'une question. Est-ce qu'on nous ressort les vieilles ficelles pour faire rentrer de l'argent dans les caisses? Vous avez vu ces déclarations à 24 heures d'intervalle de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal qui nous ressortent le couplet des 35 heures. Darmanin, ce matin, il faut supprimer les 35 heures dans le privé, il faut aller à 36-37 heures dans le public. Écoutez, dans la foulée ce matin, la réaction du vice-président de la CPME, Jean-Yves Duménil, qui se pose quand même des petites questions, puis vous me direz après ce que vous en pensez.
Alors, la question des 35 heures, elle est complexe. En réalité, le véritable sujet, c'est le coût au-delà de 35 heures. Aujourd'hui, quand on travaille plus que 35 heures, on a la possibilité de le faire.
Les heures sup.
Notamment les heures sup. Et puis, il peut y avoir des accords de branche qui annualisent. Enfin, techniquement, on peut travailler plus. Mais ça coûte plus cher à l'employeur. C'est ça la véritable question. Donc, quand Gérald Darmanin dit que les heures légales, l'horaire légal pourrait passer à 37 heures, la question, c'est à quel prix, d'une part, pour l'employeur et pour le salarié.
Est-ce que ça vous fait pas un peu froid dans le dos de voir qu'on est encore là-dessus en 2024? Sixtine, comment est-ce que vous regardez ça? Vous êtes chef d'entreprise.
Alors moi, ça m'étonne pas, mais justement, en tant que chef d'entreprise, moi, ce qui me fait retenir mon attention, c'est pas le nombre d'heures, mais c'est plutôt la productivité. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un peut travailler 32 heures par semaine et être bien plus performant que quelqu'un qui travaille 40 heures, et inversement. Donc moi, le sujet principal, c'est comment rendre certains métiers beaucoup plus productifs.
Oui.
Et moi, j'avais pensé à, il y a beaucoup de secteurs, donc certains, évidemment, ça ne peut pas marcher, mais ça nous fait, on a parlé pendant des mois, voire même des années, de à quel point l'IA était la révolution du 21e siècle. J'ai l'impression que dans la majorité des secteurs, c'est comme s'il n'y avait rien qui était au courant de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Tu mets l'IA dans la majorité des secteurs qui remplacent des métiers administratifs ou autres, tu peux gagner énormément de temps et donc même faire gagner à la fin de l'argent aux entreprises et donc en fait à l'État. Et par exemple, je prends un exemple débile, mais il y a un an, je me suis fait voler mon téléphone, je suis allée porter plainte dans un commissariat, c'est un policier qui a pris ma plainte. Est-ce que le policier, il serait peut-être pas plus apte à être dans la rue, en train d'essayer de défendre nos concitoyens ou autres, et peut-être qu'une intelligence artificielle pourrait, au bout d'un moment, au long terme, récupérer ces informations-là à la place du policier.
Il est peut-être
formé à faire autre chose. Enfin, je sais pas. Mais
on est très loin des débats sur les 35 heures. Non, mais c'est vrai. Voilà, on a tiré ce fil. Henri Sterdignac, est-ce qu'il y a encore quelque chose à détricoter sur les 35 heures en 2024 pour vous? Est-ce que vous dites c'est un combat d'arrière-garde?
La durée moyenne du travail en France à temps plein, c'est de 39 heures.
Oui.
Donc voilà, les 35 heures n'existent plus. Le problème, comme l'a dit ce représentant du patronat, c'est qu'est-ce qu'on fait des suppléments de coûts pour les heures supplémentaires? Est-ce qu'on passe à 39 heures en augmentant un peu le taux horaire pour que les travailleurs n'y perdent pas, ou est-ce qu'on dit aux travailleurs, ben voilà, vous travaillez 4 heures de plus, mais avec 25% de moins pour ces 4 heures supplémentaires. Donc, c'est pas le grand problème. Par ailleurs, je pense que l'administration a déjà, dans beaucoup de cas, pris le tournant de l'intelligence artificielle. On peut porter plainte actuellement par Internet. Donc,
on peut porter plainte sur
Internet. Bien sûr, on peut porter
plainte. Peut-être que ça a changé depuis un
an. On peut porter plainte par Internet. Il y a plein de choses maintenant qu'on peut faire par Internet. Le problème, c'est qu'on a encore beaucoup de gens, des personnes âgées, qui ont du mal à utiliser Internet et qui veulent absolument.
C'est ce que disait le patron de FO tout à l'heure, effectivement. Ouais,
qui se plaignent lorsque ça se passe par Internet.
Nicolas Marquez, il y a encore quelque chose à détricoter ou pas sur les 35 heures? On est vraiment dans les grosses ficelles.
Je n'ai pas les mêmes chiffres qu'Henri, parce qu'Henri disait la durée moyenne. Mais quand on regarde les statistiques de l'INSEE, il y a 45% des salariés qui travaillent 35 heures ou moins. C'est les chiffres.
35 heures ou moins?
35 heures ou moins. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait 20% des salariés en 75 qui travaillaient moins de 35 heures. Ce chiffre, il est monté à 52 en 2000-2003, c'est le passage aux 35 heures. Et il a rebaissé depuis, puisqu'il y a eu toute une série d'aménagements. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, et pourquoi on parle du sujet 35 heures? C'est que globalement, depuis 1970, on travaille 17% d'heures en moins. On travaille 350 heures en moins. Et depuis 1970 et la fin du baby-boom, on a des dépenses de retraite qui ont explosé. À l'époque, la durée moyenne de retraite, c'était 8 ans. Maintenant, c'est à peu près 20 ans. Et donc, on a des comptes sociaux déstructurés. Et donc, vous avez ce discours qui a un sens, qui consiste à dire on peut pas travailler moins et vouloir avoir des dépenses sociales plus élevées, notamment parce qu'on vit plus longtemps à la retraite. Et donc, on reparle des 35 heures à chaque fois qu'il y a une tension sur les comptes. Mais on ne sait pas comment équilibrer nos comptes publics.
C'est ça le vrai combat en 2024, c'est 35 heures ou pas 35 heures.
Nathalie, on a 4% des travailleurs qui sont à temps partiel contraint. Donc il y a de la marge, mais
le vrai combat,
la marge, c'est le temps partiel contraint.
Le vrai combat, c'est de trouver de l'argent.
Voilà.
Et clairement, on ne peut pas trouver de l'argent si on n'a pas de gain de productivité ou si on ne travaille pas plus.
Est-ce que c'est le vrai combat en 2024, Nathalie? Vous dites, là, ils nous sortent les grosses ficelles. Là, pour.
Non, je pense que globalement, il faudrait effectivement se replonger sur le marché du travail. Et en effet, dans la littérature, il y a un courant qui s'appelle l'austérité expansive. Et en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les pays qui ont mis en marche des plans d'austérité et qui ont permis à leur pays en fait de repartir, de renouer avec la croissance économique. Et dans ces pays-là, qui sont plutôt les pays nordiques, effectivement, immanquablement, dans ces réformes, il y a le marché du travail et la retraite. Donc, c'est QFD.
Il faut regarder les études. La plupart de ces études sont contestable. C'est des pays qui en même temps ont dévalué. C'est des pays qui en même temps ont fait des réformes financières. Et puis dans les pays scandinaves, c'est des pays qui se sont remis de crise bancaire. Donc, voilà, je veux dire, on peut prendre l'exemple de la Grèce, on peut prendre l'exemple des pays du Sud. On leur a imposé une austérité fabuleuse. Et ben,
ça n'a rien à voir. C'est des vraies réformes. Ça n'a rien à voir au niveau des cadres. Mais les deux vont ensemble. C'est ce que je veux dire. Oui. Marché du travail et retraite vont ensemble.
Nicolas, mais Nathalie a raison. En Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, on travaille comme chez nous. Mais il n'y a pas la même tension parce que les comptes sociaux sont équilibrés.
Mais ils travaillent même plus.
Pas forcément. Mais ils ont équilibré leurs comptes sociaux. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. Oui. C'est-à-dire que nous, on n'équilibre pas nos comptes sociaux, donc on a cette tension sur les 35 heures, comme on a la tension sur les retraites périodiquement. C'est toujours la même raison. Si on ne mettra pas de l'ordre, on aura ces problèmes.
Nos comptes sociaux, c'est pas le problème des comptes sociaux qui a des impacts sur ce qui se passe dans les entreprises.
Mais pourquoi, Darmanin et pourquoi Attal disent qu'il faut travailler plus en France parce qu'ils voient les déficits, ils sont tétanisés en regardant les déficits.
Attal et Darmanin sont des gens, et Bruno Le Maire, qu'il ne faut pas oublier, même s'il s'est sauvé en Suisse, c'est des gens qui ont pratiqué des politiques expansionnistes quand c'était nécessaire, et aujourd'hui ils se réveillent pour nous trouver des recettes qui ne marchent pas.
Sixtine, dans un média, dans un groupe comme le vôtre, Le Crayon, voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes, est-ce qu'on raisonne encore en termes de 35 heures? Enfin voilà, est-ce que pas un combat d'arrière-garde eu égard à la façon dont évolue le marché du travail finalement en 2024 quand même?
Complètement. On est beaucoup plus positionnés sur la productivité en fait. Et on s'en fiche combien d'heures les gens travaillent, mais après c'est une autre manière de faire, ça n'est pas du tout valable pour la majorité des secteurs.
C'est libérer le marché du travail,
que ma génération, les gens sont motivés plus que par le salaire ou autre, mais quand ils rejoignent une entreprise, généralement ils sont hyper investis parce qu'ils croient à un projet ou à l'ambition de l'entreprise, qu'importe qu'elle soit petite ou grosse, et donc ils sont prêts à s'investir nettement plus et à être beaucoup plus productifs parce qu'ils aiment l'environnement dans lequel ils sont, et c'est beaucoup moins pour une question de salaire ou de statut aujourd'hui, en tout cas à ma génération.
Le télétravail, on compte plus les heures.
Ouais, le télétravail, je ne sais pas si c'est la chose la plus productive. Je pense que ça dépend des secteurs. Oui,
tout à fait.
Beaucoup de gens à qui je ferais confiance en télétravail.
L'effet d'apprentissage montre que effectivement.
Et l'effet de groupe et de collectif aussi.
Oui. Bon, alors dans la série Grosse Ficelle, je voulais qu'on écoute. Alors c'était jeudi dernier, vous savez, Michel Barnier qui disait sur France 2, on va sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens. On va pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Il a redit hier, il n'y aurait pas de coup de rabot. Écoutez ce que disait vendredi le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, qui disait, ouais, on va faire évoluer un petit peu tout ça quand même. Écoutez.
Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, moi, je soutiens l'objectif du Premier ministre, qui est de faire plus pour le service public avec parfois moins de moyens, grâce à la simplification et la débureaucratisation. Et donc, oui, il est possible que sur des fonctions support, sur un certain nombre de fonctions qui ne sont pas en contact direct avec le citoyen ou avec l'usager, certains départs en retraite ne soient pas forcément reconduits ou remplacés. Ça peut arriver. Mais l'objectif en soi est d'améliorer la qualité du service public, de simplifier les choses. On peut faire plus avec des moyens qui sont parfois plus limités parce qu'on a gagné en efficacité.
Alors, éternelle question, est-ce qu'on peut faire mieux avec un petit peu moins? Ça, c'était le grand créneau depuis quelques jours de Michel Barnier et Nicolas Marquez.
Et c'est le même problème.
Est-ce qu'il faut réduire les effectifs? Est-ce que c'est une question de redéploiement? Qu'est-ce que c'est, en fait?
C'est le même problème. Je vais vous faire le décodage de ce qui s'est dit. Et puis, je m'étais emmêlé dans mes stats tout à l'heure, donc je vous présente mes excuses, Ludivine. En fait, le vrai sujet, c'est qu'on n'équilibre pas les comptes de l'État. Et que la variable d'ajustement, ça va être l'emploi. Pourquoi on n'équilibre pas les comptes de l'État? Il y a notamment, quand on regarde la dépense de personnel, 164 milliards de dépenses de personnel dans l'État, dont 60 milliards sont fléchés pour les retraites, une partie pour la protection sociale des fonctionnaires, et puis le reste pour les rémunérations. Et donc, la façon qu'a l'État de dégonfler ses dépenses, comme ils ne peuvent pas toucher sur les retraites des fonctionnaires qui sont dues, ils disent, on va embaucher moins. Pour vous donner un chiffre que vous le mémorisiez, une heure de fonctionnaire, et ça fait le lien avec le débat qu'on avait auparavant en France, ça coûte 39 euros. Il coûte 39 euros aux finances publiques, et il y a 15 euros de cotisations retraite pour financer les retraites des anciens fonctionnaires. Il y a des cotisations sociales comme les Français. Il y a 17 euros de salaire net. Voilà. Donc on a une fonction publique qui a vieilli. On a un État employeur qui n'a rien fait pour provisionner les retraites de ses fonctionnaires. Et donc, il a des retraités qui coûtent très cher. Et il dit, je vais moins embaucher de nouveaux fonctionnaires.
Il ne va pas réussir à moins embaucher parce qu'on a des besoins et que naturellement... Voilà.
Quand on essaye
de moins embaucher, il y a des problèmes.
C'est le prix
du passé. Il y a des
problèmes
dans les crèches. Quand on dit les crèches, c'est privé, ça pose problème. Quand on dit les EHPAD sont privés, ça pose problème. On a des enfants handicapés. On dit, il faut d'avoir des gens pour les aider à suivre les études. Là aussi, il faut embaucher. On a beaucoup d'emplois où l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer, heureusement.
Ça, on est d'accord. Mais ça pourrait également remplacer, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de secteurs qui n'utilisent pas cette intelligence artificielle. Oui. Et ça, je suis convaincue. Mais pas tous en est d'accord. Après, il y a aussi une chose à avoir en tête, c'est que Emmanuel Macron a vachement réinvesti sur les secteurs régaliens, là où peut-être il aurait peut-être dû réinvestir ailleurs. À la base, il s'était engagé à réduire de 50 000 postes dans ce secteur-là. Il en a rajouté 50 000. Donc là, on a une échelle bien différente. Mais effectivement, il y a des secteurs, même l'éducation, la santé, sur lesquels on n'a pas du tout assez investi. On aurait bien peut-être plus dû que militaire, la recherche ou autre. Je ne sais pas, c'est une question de point de vue, mais c'est aussi ça à avoir en tête.
Comment est-ce qu'il faut poser le problème, Nathalie ? Est-ce qu'on dit il faut réduire, tailler dans les effectifs de la fonction publique, ou alors il faut s'attaquer à la question des redéploiements, où les fonctionnaires sont le plus utiles véritablement ? Est-ce que c'est dans les administrations ? Est-ce que c'est à l'hôpital ? Est-ce que c'est dans les collectivités locales ?
Il y a ça, effectivement, puisqu'on sait bien qu'on a essayé, enfin, on a réduit certaines emplois dans la fonction de l'administration centrale, mais en fait, on a recréé l'administration locale à cause des changements, en fait, de responsabilité quand l'État en a transféré.
En 2004, il y a 20 ans, c'est là que ça a explosé dans la fonction.
Exactement. Donc, en fait, on a toujours, effectivement, la même chose qu'on suit, espèce de mammouth qui continue à être pareil. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut pas aussi évoluer vers un autre type de contrat entre l'État, c'est-à-dire que pour essayer pour que dans le temps futur ce problème ne s'arrête, enfin en tout cas ne se pose plus dans les mêmes termes, il faudrait aussi envisager de ne plus contractualiser dans le statut qu'on connaît.
La fin de l'emploi à vie, c'est ça ?
La fin effectivement de l'emploi fonctionnel, qui a aussi été des pistes qui ont été étudiées par d'autres pays. De toute façon, il y a différentes relations.
Mais il se trouve qu'actuellement, dans l'ensemble des employés de la fonction publique, il n'y a plus que les deux tiers qui sont effectivement fonctionnaires. Voilà. Ça a déjà été fait. On a beaucoup de contractualisés.
La France est celui qu'on a fait le moins par rapport à d'autres pays.
Il n'y a plus que les deux tiers qui ont un statut de fonctionnaire.
Bah oui, mais deux tiers, c'est beaucoup.
Deux tiers, ça reste beaucoup.
Il y a les enseignants.
Mais oui, mais c'est beaucoup. Ça reste beaucoup par rapport à d'autres pays.
Il y a les juges.
Je
veux juste avoir un mini point de vue hors de chef.
Qui doit nous regarder quelqu'un en disant, mon Dieu, mais c'est débat. Les 35 heures, les fonctionnaires, mais moi.
Alors moi, j'ai juste un mini point de vue, évidemment. Alors, à mon très, très modeste niveau, aussi, quand t'es chef d'entreprise, il y a un problème avec le secteur justement des fonctionnaires, c'est qu'ils sont extrêmement bien protégés par les syndicats et par leur statut. Il y en a beaucoup qui, certains, sont peut-être mal utilisés ou mal employés, mais qui, si eux ne décident de pas bouger, personne pourra les faire bouger de là où ils sont. Et ça crée aussi un gros problème, parce qu'après, il y a beaucoup de gens très pertinents et très performants qui ne peuvent pas avoir certains jobs, qui sont déjà occupés par des gens qui, peut-être, travaillent plus assez bien.
Mais c'est une vraie question aussi. Il devrait lever le tabou du fonctionnariat, de toute façon, puis dans l'éducation en particulier.
On prend dans 2 minutes 19h30, on est en retard sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h37, on est reparti avec nos experts, avec Henri Sterdignac, Nicolas Marquez, Sixtine Moulet-Berthaud et Nathalie Janson avec nous jusqu'à 20h. Juste sur les fonctionnaires, parce que je vous ai posé une question, personne ne m'a répondu. Est-ce qu'il faut tailler dans les effectifs de la fonction publique ou est-ce qu'il faut faire du redéploiement, Nicolas, si on le fait en...
Alors,
façon chirurgicale.
Ça dépend des fonctions publiques. Ouais. De façon chirurgicale, il y a la fonction publique territoriale, il y a un vrai sujet parce qu'on n'a pas fait la décentralisation de façon complète. On a délégué certaines activités, on n'a pas fait de décentralisation financière. Donc on a en France des mairies, des conseils départementaux, des conseils régionaux qui emploient du monde, mais n'ont pas la sanction financière. Si les comptes de votre collectivité dérapent, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas l'impôt que vous payez à la mairie, vous ne voyez pas l'impôt que vous payez au département, vous ne voyez pas l'impôt que vous payez à la région. Tout passe par l'État qui redistribue avec des clés de répartition bizarres. Et donc, le contrôle démocratique, c'est la déclaration de 1789, chacun peut voir l'usage de son impôt, il ne s'effectue pas sur les collectivités locales. Ça, c'est un premier sujet. Après, quand on regarde l'État, c'est différent. L'État français, il n'est pas obèse. Quand on le compare par rapport aux autres États, il n'est pas particulièrement obèse. Par contre, il est mal géré sur un point récurrent, c'est les retraites dont je vous parlais. Parce que clairement...
Mais c'est une obsession.
C'est une obsession, mais ça vous explique, Henri, pourquoi on a eu le gel du point d'indice. Ça vous explique pourquoi on a ce genre de débat. Dans les années 70, on n'avait pas le baby-boom, on avait une démographie qui était correcte, on arrivait à équilibrer les comptes publics. Depuis que c'est fini, on a des comptes qui dérapent, et ça vous explique ce qui se passe. Et ça vous explique ce débat
mais sur les 35 heures. Mais c'est pas le gouvernement français ce débat sur les fonctionnaires. Ni la mauvaise gestion qui est responsable de l'évolution démographique du pays. C'est... Et quelle que soit
l'évolution
démographique.
En Norvège, en Finlande, ils ont provisionné. Et comme ils ont provisionné.
On a eu quand même des ressources pétrolières et gazières.
Mais ils ont provisionné. Bon, et donc les retraites ne pèsent pas sur le budget et les comptes sont équilibrés. Et donc vous n'avez pas ces débats malthusiens qu'on a chez nous.
Nathalie.
Moi je dirais que, compte tenu de ce qui se passe en France avec le problème de collectivité locale et effectivement de savoir qu'en fait ils ont des gens à gérer, mais en fait ils ne gèrent pas, ils n'ont pas directement la sanction. Je pense qu'on va demander à Milaï de venir. Il sait très bien faire ça. C'est ce qu'il a fait avec les provinces.
Il faut savoir. Nathalie a une aspiration sans faille pour ravir Milaï, le président.
Il y a quelques provinces qui ont compris qu'effectivement, quand ça coupe, ça coupe. Et là, effectivement, après, il faut gérer ces fonctionnaires. Non, pour être plus sérieuse, je pense qu'effectivement, il faut quand même repenser la fonction publique. Oui. Et ce n'est pas une histoire de redéploiement, mais il faut vraiment repenser la fonction publique et là où elle doit vraiment être.
L'âge de départ à la retraite qui est
inévitable.
C'est combien l'âge moyen au crayon, Sixtine, aujourd'hui chez vous,
effectivement ? Je dirais 28 ans.
28 ans aujourd'hui, ah oui, on n'est pas dans le même niveau.
On n'est pas dans le...
D'accord, mais c'est la vie, c'est certains secteurs qui...
Oui, bien sûr.
Avec
bien
des
sûr,
jeunes, d'autres avec des vieux, et puis bon, ben voilà, on équilibre. Il faut pas non plus... Il faut voir que dans la fonction publique n'a pas augmenté massivement ses effectifs, et du coup, naturellement, il y a un problème démographique plus important... Que au crayon ou dans le privé. Par ailleurs, nous payons la taxe foncière. On voit l'impact. Donc, il y a un impact direct des dépenses sur la taxe foncière qu'on paye. Alors, et si on paye pas la taxe d'habitation, c'est à cause d'une erreur de Monsieur Macron.
Bien. Est-ce que vous inquiétez pour l'Allemagne qui s'excusait la presse allemande hier? Ça sera confirmé a priori mercredi. On est parti pour une deuxième année de récession. -0,3 l'an dernier, -0,2 a priori cette année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter véritablement pour l'Allemagne, Nicolas Marquez?
Oui, j'ai envie de dire oui, parce que ils ont raté leur transition dans toute une série de domaines, notamment énergétique.
Les événements les ont pas vraiment aidés non plus.
Hein. Oui, mais ils avaient fait aussi des choix d'arrêter le nucléaire de façon prématurée, de dépendre du gaz russe. Et donc ça a des impacts dans toute une série de domaines. L'industrie, notamment l'automobile, mais aussi toute la chimie. Toute la chimie, c'est une série d'industries qui consomment énormément d'énergie et donc ils perdent pied sur les deux domaines. Leur automobile, ils ont outsourcé toute une série de choses en Chine. Ils ont des déboires dans tout ce qui est électrique. En chimie, ils outsourcent de plus en plus. Et donc, ils ont des différents moteurs qui pénalisent la croissance.
Nathalie.
Je ne suis pas une grande spécialiste de l'économie de l'Allemagne, mais effectivement, ils sont dans une situation, on voit bien qu'ils leurs choix précédents qui les avaient portés arrivent en fait en bout de course et on ne voit pas en fait de changement stratégique, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas changer, on ne les voit pas se redéployer sur autre chose et ça leur coûte cher, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'attentisme, on se demande en fait vers où on va se diriger et il n'y a rien qui... Parce qu'effectivement sur l'automobile, ils sont pris dans leur but et ils ne savent pas trop, c'est compliqué de revenir sur quand même une spécialisation qui a longtemps existé.
Ce qui s'est joué sur le vote l'autre jour à Bruxelles sur les voitures électriques chinoises est quand même assez symptomatique de
complètement. Et voilà, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, ils sont victimes d'un modèle qui a été gagnant pendant longtemps. Ouais. Et d'un autre côté, effectivement, ce ne sont pas c'est pas une économie qui semble être hyper entrepreneurial, avec un vivier d'entrepreneurs, comme on peut avoir dans d'autres pays. Donc, leur moteur est un peu en panne.
Un petit avantage quand même, c'est que le ratio de la dette par rapport au PIB est de 60%. Ça leur laisse un
petit peu moins.
Moins positif.
Donc, c'est pas si alarmant que ça.
C'est pour
tout le monde ne peut pas en dire autant. Voilà, Henri rigole, il va nous dire, oui, mais au prix d'une précarité, non ?
Il y a deux choses, je voudrais dire deux choses. Premièrement, on a eu les enquêtes de conjoncture la semaine dernière, qui sont tout à fait catastrophiques. Dans l'industrie, dans le commerce de détail et dans les industries de côté et dans la construction. Donc effectivement, c'est mauvais. Et ensuite, le grand problème qui va se poser pour nous Européens, c'est de savoir que vont faire les Allemands. Est-ce qu'ils vont essayer la stratégie de l'offre, ce qui serait tout à fait catastrophique d'essayer de regagner de la compétitivité en faisant pression sur les salaires et en faisant pression sur les dépenses publiques, ou est-ce qu'ils vont enfin se rendre compte qu'il faut une politique un peu plus expansionniste en Allemagne et en Europe et qu'il y a aussi un problème de demande.
Ils ont peut-être joué sur la carte de l'Europe maintenant désormais. Enfin, ça serait... Voilà, après...
Jouer sur certitude, la carte de l'Europe...
Leur certitude autour de la Chine ont volé en éclats. Peut-être que c'est du côté de l'Europe, il va falloir regarder.
Oui, mais le problème, c'est que l'Allemagne n'a jamais été hégémonique en Europe. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu... La mission, elle ne s'est jamais donné la mission de raisonner au niveau de toute l'Europe. Elle s'occupe sur tous ses intérêts et il faudrait que l'Allemagne soit un peu plus hégémonique de ce point de vue.
Est-ce que l'Allemagne va changer de logiciel? Est-ce qu'elle va recommencer à regarder un peu plus vers l'Europe désormais par la force des choses, Nicolas, pour vous?
J'ai pas d'avis sur cet aspect-là, mais j'ai un avis sur la question précédente. Les Allemands vont faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de couper dans les coûts et ils vont pas faire la politique keynésienne qu'appelait Henri de ses voeux, parce que c'est pas dans leur logiciel. Ça, c'est pas une chose simple.
Bon, voilà, l'Allemagne, donc, ça devrait être confirmé mercredi qu'il va aller pour la deuxième année.
Il y a un petit problème, c'est de savoir est-ce que l'Allemagne va nous soutenir, nous, la France, on va réclamer des politiques industrielles publiques. Ou est-ce que... Elle...
Bah on verra
voilà.
Ça.
C'est également l'autre inconnu.
En matière de soutien à l'industrie, on a la réponse, là aussi. L'Allemagne fait une politique de l'offre. Elle soutient la production. Vous regardez l'industrie allemande, elle est subventionnée. Quand vous regardez les impôts sur la production, ils sont inférieurs aux subventions que font les Allemands. Alors qu'en France, nous, on taxe la production, on la chasse hors de France. Donc le problème n'est pas allemand. Il est chez nous. C'est notre fiscalité qui détruit l'emploi.
Complètement.
Il y a problème. Le problème est allemand parce que l'industrie allemande est quand même en détresse.
En termes de fiscalité,
elle est 16% plus bas que le niveau qu'elle avait avant la crise.
En termes de fiscalité, le problème est chez nous.
Oui, mais c'est rien à ajouter. Je suis complètement d'accord. Le plus gros problème, c'est la fiscalité. Donc en fait, au bout d'un moment, on produit plus rien chez nous et
voilà. On a fait des moins mauvais choix énergétiques, mais comme on a une mauvaise fiscalité, on a un problème. Ils ont fait des choix énergétiques catastrophiques. Ils ont une bonne fiscalité, ils ont un problème.
Allez. Avec les conséquences que ça a sur les infrastructures, la recherche, etc., c'est pas génial.
Bien, on voulait dire un mot du dossier Ubisoft. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du report de la sortie du dernier Assassin's Creed. Je ne vais pas vous emmener là-dessus. Non, parce que vous savez qu'il y a de grosses rumeurs.
Si vous avez des enfants, on peut savoir.
Absolument, oui. Quand on a des enfants, effectivement, on sait. Non, vous savez, il y a de grosses rumeurs selon lesquelles la famille fondatrice des Guillemot et le chinois Tencent pourraient lancer une offre de rachat du groupe pour la sortir de la cote. Avec toujours le risque que le chinois Tencent prenne un petit peu la main. Et là, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui vous tient à cœur, Sixtine, parce que c'est une entreprise familiale. C'est les Guillemot qui ont fondé l'entreprise en 1986. Ils étaient dans les produits agricoles à l'époque, ils ont voulu se diversifier, ils sont allés sur les jeux vidéo. J'en ferme la parenthèse. Est-ce que vous dites que ça serait dommage de voir une telle entreprise familiale partir sous un seuil étranger? Comment est-ce que vous regardez ça, vous?
J'ai deux points de vue. Alors, le point de vue de quelqu'un de lambda qui n'est pas chef d'entreprise, si on prend l'exemple, par exemple, de plateformes qu'on utilise tous les jours, comme LinkedIn ou Instagram, ça a eu une explosion le jour où ils se sont fait racheter. Donc, ça se trouve, ça peut être très positif pour cette entreprise. Le point de vue de chef d'entreprise qui a monté une boîte familiale, tu perds l'ADN. Tu perds l'ADN et la motivation de pourquoi les gens se battent pour toi au quotidien. Ça peut paraître bête, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'employés qui, quand ils bossent dans une entreprise, dans une start-up ou même une grosse boîte qui réussit à bien se développer, ils viennent surtout parce qu'ils veulent faire partie d'un projet et faire partie d'une aventure. Le risque, quand les fondateurs partent, c'est que cet ADN parte avec eux. Donc le plus important, c'est de réussir à la transférer. Mais donc en fait, après, tu peux aussi. C'est débile comme ça, mais tu peux perdre tes top performers aussi qui partent parce qu'ils ne se sentent plus chez eux. Ils n'ont plus l'impression qu'ils font partie du projet. Donc d'un point de vue, si c'est intéressant financièrement et que après la boîte peut encore mieux se développer, oui, évidemment qu'il faut le faire. Enfin, ce serait débile de pas le faire. Mais juste ce petit côté, je comprends en tout cas ce ressentiment où il faut vraiment que ça ait un intérêt pour les fondateurs de le faire, parce que sinon, effectivement, déjà, ça va être difficile pour eux parce que tu perds entre guillemets un bébé. Concrètement, c'est le cas. Et aussi, même pour les salariés qui sont dans la boîte, ça va pas être évident non plus.
Vous dites pour quelqu'un qui fait partie de la boîte, et si les fondateurs vendent, c'est un game changer, quoi. C'est plus la même
c'est
histoire.
C'est pas la même histoire. Si la transition est pas assez bien faite et qu'ils eux-mêmes n'ont pas un rôle plus important ou n'ont pas d'autres petits bonus à droite à gauche qui peut le faire, qui restent contents. Émotionnellement, c'est très difficile. Et aujourd'hui, on oublie que l'aspect émotionnel est quand même très important dans les jobs, en tout cas de ma génération.
Et c'est un argument, par exemple, chez vous, qui avez monté donc avec votre frère le crayon en 2020. C'est un argument. Enfin, est-ce que c'est un argument pour recruter ça aujourd'hui?
C'est un argument monstrueux.
Vraiment.
Le fait justement de développer même son image personnelle sur les réseaux sociaux, une chose qu'on a beaucoup faite, ça aide justement les gens à vouloir te rejoindre parce qu'ils veulent faire partie d'un projet, parce qu'ils voient à travers l'image personnelle que tu renvoies sur les réseaux sociaux quelles sont les valeurs du projet. projet, où tu veux aller, c'est quoi ta vision. Et c'est ça qui font qu'aujourd'hui les jeunes veulent rejoindre une entreprise. Ce n'est plus que à cause du salaire.
C'est intéressant, hein. Ça renvoie un petit peu à tout le débat, vous savez, sur les entreprises familiales, les ETI dont on manque cruellement en France. Bah oui, il y a une histoire.
Le problème, c'est que les fondateurs actuellement ont 64 ans.
Ouais. Oui, c'est ça.
Plus.
Donc, c'est pour ça que...
Et le problème.
Ils étaient 5 frères au début de l'aventure en 86. Voilà.
Bref, ils ont autour de 64, 65 ans et le problème, c'est.
Non, mais c'est normal qu'ils veulent le vendre. Ça, c'est logique.
C'est normal qu'ils veulent le vendre et le risque, c'est que. Enfin, le problème, c'est qu'ils n'ont pas. La génération suivante de la famille ne s'est pas impliquée dans l'entreprise.
Ça, on y peut.
Donc ça coince. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'une entreprise. C'est pas des capitaux, c'est avant tout une âme. Ouais. Et donc, tout à fait naturellement, le problème, c'est l'entreprise va perdre son âme.
Derrière ça, il y a le débat sur les ETI, sur la transmission d'entreprise. Enfin, c'est des débats très contemporains, ça, aujourd'hui, Nathalie. Hein. Enfin,
ben, ah oui, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a qui avaient peur de la remise en cause de la fameuse loi Dutreil.
Bah, peut-être être un petit peu toiletté quand même. Hein,
voilà. Mais oui, c'est un. C'est... Bon, après, voilà, comme il vient d'être dit, s'ils ont atteint l'âge et qu'ils n'ont pas, ils ont pas réussi à donner envie à, leur, à leurs enfants.
Ils auraient dû trouver.
On n'y peut rien. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer non plus. Néanmoins, c'est une histoire.
On pourrait imaginer une reprise par le personnel, mais.
Oui, ou alors ils ne l'ont pas considéré.
Nicolas Marquez, Nicolas.
C'est un peu tragique. C'est typique du problème français. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vieillissent, on a une transmission qui est complexe parce qu'on a une fiscalité très élevée. Ah, voilà. Et par hasard, c'est des acteurs étrangers qui vont monter en puissance parce qu'on est sous-capitalisé.
Tencent, ils attendent que ça, je peux vous dire.
Tencent, c'est clair.
Tencent, ils sont 285 fois plus gros.
Ben oui.
Et quand on regarde Ubisoft, c'est 2 milliards de capitalisation boursière. Ouais. Et les 300 premières entreprises françaises, c'est 3 000 milliards. C'est moins que Microsoft.
Oui, c'est ça.
C'est moins que Nvidia. C'est moins qu'Apple. Ouais, en fait, on est dans un pays où on peut grossir petit. Et après, comme on a trop de fiscalité et pas assez de capital,
c'est pas une question.
Si, c'est vendu à l'étranger.
Si, c'est pas une question de fiscalité, c'est le fait que effectivement la génération
un peu quand même, hein,
génération suivante.
Mais écoutez, les chefs d'entreprise ont
voulu prendre les rênes.
Non, c'est les deux.
Elle a pas voulu.
Non, mais alors dans ce cas,
c'est une question de fiscalité.
Non, mais dans ce cas concret,
c'est extrêmement simple. Maintenant, il y a le pacte du trait. Il y a des tas de possibilités. Si effectivement l'entreprise est rentable, d'avoir des crédits. Pour payer les droits de succession. Le problème, c'est que c'est un cas particulier. C'est une entreprise où il n'y a pas une génération qui est disposée à reprendre la boîte. Et en plus, c'est un secteur qui est extrêmement fluctuant. Et donc, le crédit pour une entreprise à ce point fluctuant est risqué.
Non, mais attends, c'est fini. Comme vous dites, les familles, c'est que ça reste complexe et que ça reste très fiscalisé.
Bon, oui, Sixtine conclut.
C'est juste pour dire, là, dans le cas concret, sûrement, et je suis complètement d'accord avec vous, juste de manière générale, la question de la fiscalité est quand même l'une des questions majeures pour la majorité des entreprises et donc pour les fondateurs, et ce qui aussi peut pousser les gens à revendre.
Allez, c'est terminé, 19h52, l'extra time pour terminer vos 30 secondes, comme tous les soirs, coup de gueule ou coup de cœur, c'est la règle impitoyable de cette émission. Qui va commencer? Bah, Nathalie, tiens, puisque.
Bon, alors, j'ai pas fait un mille-lay, sinon je vais être lourde.
Ah oui, j'ai déjà fait.
Alors, je vais décerner. J'ai trouvé que notre Premier ministre avait fait la démonstration de ses talents de négociateur à travers ses deux déclarations. L'une sur on va taxer les hauts revenus et les entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Donc là, c'est à l'adresse de la gauche. Et ensuite, la crise financière est pour demain. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial parce qu'il a fait en même temps. Ouais, je vous ai compris, mais attention, vous n'allez pas revenir parce que si jamais ça se passe mal, c'est à cause de vous.
Ah, mais ça, c'est ça, on négocie le Brexit pendant des années.
Mais j'ai trouvé ça génial.
Ça donne des ailes, pour le coup. Ouais. Nicolas Marquez, c'est à vous, 30 secondes.
Oui, alors,
Nicolas.
Toujours pour titiller Henri, je vais parler de la Banque de France. C'est mon coup de cœur du soir. Pourquoi la Banque de France? Parce que c'est une banque et ils savent calculer. Et donc, eux, ils n'ont pas besoin de repasser aux 35 heures, ils n'ont pas besoin de diminuer les embauches. Ils ont provisionné leur retraite des fonctionnaires. Ils distribuent, ils ont 14 milliards de promesses, ils ont placé 14 milliards, donc ils autofinancent ça par les dividendes des plus-values. Henri, rigolez pas, parce que si l'État France avait fait ça, il économiserait 60 milliards chaque année, sans renier les retraites, sans faire travailler plus ses fonctionnaires, sans embaucher moins, sans geler le point d'indice. Donc c'est clé.
Allez, le coup de gueule, de ce soir de Nicolas. Bah allez-y Henri, tiens, 30 secondes, c'est à vous.
Eh ben, je vais féliciter la communication du gouvernement qui tous les journaux reprennent que effectivement il y a un plan dans lequel on va réduire les dépenses publiques de 40 milliards et on va augmenter les recettes de 20 milliards. Mais quand on regarde le détail du plan, on s'aperçoit qu'en fait, on ne réduit les dépenses publiques que de 15 milliards et on augmente les impôts de 30 milliards. Alors comment ce tour de magie? Parce qu'on compte comme dépenses en moins la hausse des dépenses fiscales qui, en fait, c'est des impôts en plus. Et pour les recettes et pour les dépenses, on ne compare pas les dépenses aux dépenses de l'année précédente, mais à un niveau tendanciel, imaginaire de dépenses. Donc, une très bonne communication, en même temps, c'est un peu mensonger.
C'est un art comme un autre. Voilà le coup de gueule d'Henri. Sixtine, c'est à vous, 30 secondes pour terminer, on vous écoute.
Alors moi, c'est un coup de cœur, c'est l'événement organisé par la BPI France, qui s'appelle le Big BPI, qui a lieu ce jeudi. Ouais. Et je le mets en avant parce que c'est un événement, nous, on adore avec le crayon y aller, être partenaire média, parce que ça réunit des milliers d'entrepreneurs dans un seul et même endroit, gratuitement. Ça permet à des jeunes de province qui n'ont pas forcément le réseau nécessaire ou autre de pouvoir rencontrer plein d'autres gens. Les gens sont très ouverts, toutes les thématiques confondues, il y a tous les types d'âge, tout le monde est très accessible, il y a beaucoup de personnalités à la fois publiques mais également entrepreneuriales qui y sont présentes. Donc voilà, c'était juste pour le dire que ça se passe cette semaine et qu'on est ravis.
Ça sera jeudi et BFM Business aussi sera, figurez-vous.
Beaucoup
de beaux moments. Merci à tous les quatre, merci d'être venus ce soir. Henri Sterdignac, Nicolas Marquez, Sixtine Moulet-Berthaud, Nathalie Janson, merci à tous, à très vite avec plaisir. Tech & Co dans un instant, Frédéric Simotel, on se retrouve demain 18h pour de nouvelles aventures, bien sûr, bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.